Le vendredi 3 mai, pour vous, Français qui vivez à l'étranger, c'est la date limite pour vous inscrire sur les listes électorales consulaires afin de pouvoir voter aux élections européennes de juin 2024. Ne tardez pas, rendez-vous sur service-public.fr.
Bonsoir à tous, 100% rugby, le lundi c'est débrief jusqu'à 19h, vous en avez l'habitude, 100% rugby, ça s'écoute aussi en podcast sur le site internet de France Bleu Pays Basque, les applications ici ou Radio France, et n'hésitez pas à partager l'émission, laissez vos avis sur les réseaux sociaux, on lit tout ça, un maximum en tout cas, et on vous remercie d'être de plus en plus fidèles, on le rappelle, mais 100% rugby c'est quand même le premier podcast rugby du réseau France Bleu, il y a 44 France Bleu partout en France, donc on vous remercie rien que pour ça, hein. 100% rugby un peu spécial, parce qu'on va aussi parler Jeux Olympiques avec notre invité, rugby à 7. Notre invité, bien, c'est un joueur de l'aviron bayonnais actuellement en stage à Cap-Breton avec le groupe des Bleus. Il sera avec nous dans quelques minutes, Esteban Capilla. On ne pouvait pas se passer de lui, évidemment, pour parler de rugby à 7. Eric Valadier, salut Bala.
Salut, bonsoir à tous.
Et j'imagine que tu es ravi d'évoquer cette discipline et les JO, puisque oui, ce mercredi, on sera à J-100 de la cérémonie d'ouverture.
Le persan, il faut fêter ça. Voilà, hein, je m'en vais au coin d'un feu tricolore faire la quête.
Avec Thomas Vinclair qui nous rejoint dans quelques secondes, on évoquera la défaite du Biarritz Olympique à Mont-de-Marsan avant la réception très importante dans la course au maintien de Grenoble ce vendredi à Aguilera. Le BO, il en est aussi question dans les infos du jour avec le processus de vente du club qui avance. Et puis dans la dernière ligne droite, on sera avec Anthony Biscay, entraîneur d'Anglette, la ORC, vainqueur de Nîmes en barrage de National 2, 28-15, c'était là-bas. Direction les quarts de finale pour les Anglois. On évoquera tout ça avec le coach. 100% rugby, c'est jusqu'à 19h. Vous avez le programme, c'est parti.
18h-19h, 100% rugby. 100% rugby sur France Bleu Pays Basque avec Stéphane Garcia.
Et donc en attendant Esteban Capilla, aux alentours de 18h30, il finit son entraînement avec le groupe France 7 à Cap-Breton actuellement, qui a débuté ce matin. Bien, on se penche sur le Biarritz Olympique, trop inoffensif pour espérer quoi que ce soit à Mont-de-Marsan, vendredi soir battu 38-7 lors d'une soirée placée évidemment sous le signe de l'hommage à André Boniface qu'on enterrait aujourd'hui à Montfort-en-Chalosse. On est avec Thomas Vinclair, Thomas qui a commenté le match avec nous, qui suit le Biarritz Olympique. Salut Thomas.
Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous.
Bon, j'allais dire soirée difficile. Hein, alors entre l'hommage certes, mais derrière pour le Biarritz Olympique qui n'est pas vraiment descendu du bus.
Non, vraiment pas. C'était un peu prévisible aussi pour ce Biarritz Olympique. On l'avait dit, il y avait eu 10 changements dans le 15 de départ. Et puis même avant la rencontre, il y a eu un premier blessé. Il y a eu Zaki Beridj qui a été blessé avant le match, donc qui a été forfait. On a dû faire entrer Yon Artru. On a dû aussi du coup amener sur le banc Billy Searle qui était normalement au repos. On le rappelle, il y avait plus pas mal de cadres hein, qui avaient été laissés au repos. Je pense à Pierre Pagès, il y avait aussi Dave O'Callaghan, Simon Ogri aussi qui était au repos. Et aussi Billy Searle qui a beaucoup joué ces derniers temps, et donc Simon Mannix voulait un peu reposer son ouvreur anglais si important dans son système de jeu, et malheureusement il a fallu le faire rentrer d'abord sur le banc et puis très rapidement en jeu parce que Steve Barry au bout de la 15e, le quart d'heure de jeu, s'est blessé, il a ses appuis qui sont restés dans la pelouse synthétique du stade Boniface, donc il a fallu se réorganiser derrière. T'as Billy Searle qui a joué en 15 pendant jusqu'à la fin de la première période, ensuite en deuxième période c'est Christopher Isenbeck qui a joué 15. Bref, c'était un peu la désorganisation, on va dire, d'un point de vue offensif du côté du BO. Puis surtout, il y avait 24-0 devant. Ils n'ont pas été invités de toute la rencontre. Ils se sont fait bouffer, enfin, ils se sont fait prendre, pardon.
Je pense que c'est le bon mot. Il y a pas de
souci. Oui. Ils se sont fait prendre. Ouais, ils se sont fait prendre dans les groupes pénétrants. Ils se sont fait prendre dans les rucks. T'as l'honneur remplaçant, l'ancien de l'aviron, Tansan Van Niersveld, qui a marqué son doublé en deuxième période sur deux essais imparables. Quoi, ça touche à 5 mètres et on va au fond. Et ils ont paru bien inoffensif, mais en même temps ils avaient beaucoup, on va dire, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on peut les excuser, ces billards là qui visiblement ils se concentraient plus sur la réception de Grenoble qui arrive donc ce vendredi, ouais. Même après le match, ils parlaient que de Grenoble pendant toute la conférence de presse d'après match, donc visiblement c'était le réel objectif. Et si on va un peu plus loin, il y a aussi le match à Agen.
Me faire une tirade bien plus longue que celle d'Éric Balader, et pourtant il y en a eu depuis le début de la saison, et ce problème c'est que je peux pas te faire de gestes, donc je suis obligé de passer la parole à Bala au bout d'un moment, et on revient vers toi, promis.
Pas de soucis.
Mais non, mais cette soirée, effectivement, où il y a eu un non-match du côté du Biarritz Olympique.
Non-match, oui. J'espère qu'ils n'ont pas choisi de prendre le mauvais chemin. Pourquoi ? Parce que il reste pas beaucoup de matchs et de faire comme ça des semblants de matchs, c'est pas bon. Même si, en effet, le match de ce week-end va être décisif avec contre Grenoble, qui est quand même, somme toute, une équipe aussi très dangereuse. Moi, ce qui m'a dérangé, c'est ce non-combat. Parce que, en effet, quand ils ont le ballon, ben, ils le tiennent bien, on sent que ça, c'est possible qu'il se passe quelque chose. Par contre, sur une pelouse synthétique, où il faut mettre de la vitesse, où il faut avoir des zones de ruck plutôt propres, là, ils sont pris dès le début du match et... Bon, il n'y a pas de réaction collective, il n'y a pas de réaction. Il y a les Montois qui s'éteignent un petit peu, mais il n'y a pas de réaction. Voilà, c'est ça qui est gênant, quoi.
Et du coup, tu te mets la pression, mine de rien, tu te mets la pression.
Pas complètement.
Parce que sur cette fin de saison, effectivement, alors qu'il reste 4 journées de championnat, ben tu vois derrière Montauban qui revient à une victoire.
Tu mets la pression sur ceux qui jouaient pas. Ça veut dire que ben, c'est avec ces joueurs-là que tu vas gagner Grenoble. Donc les gars qui étaient dans la tribune ou pas sur le terrain, en tout cas, ben, ils vont se dire, bon, nous, il faut qu'on rattrape le coup. Par contre, tu te mets la pression, parce que moi, je suis désolé, on n'apprend pas d'une victoire comme ça. On peut dire ce qu'on veut, oui, bon, on a tourné, machin, non. T'as aucun élément qui te met de la confiance pour aller battre Grenoble. Tu fais un bon match au Stade Montois. Un petit mot après sur les Montois. Toi quand même, parce que
on a le temps, on aura une deuxième partie.
Tu fais un bon match contre le Stade Montois, tu perds, mais finalement tu les embêtes un petit peu. Bah, tu construis quelque chose pour aller battre Grenoble et te sauver et jouer le maintien. Par contre, tu t'appuies sur quoi là pour battre Grenoble ? Sur rien du tout, qui viennent de faire un match énorme aussi. Donc attention. Allez, les Montois, juste.
Vas-y.
Gros match des Montois. Juste pour une bonne et simple raison, c'est qu'ils avaient envie, par hommage à ce monsieur, de lâcher les chevaux. Et il y a eu 7 touches rapidement jouées dans un match professionnel, qu'on ne vienne pas me dire après, c'est pas possible. Des pénalités jouées à la main dans tous les coins du terrain, avec un Jules Even au-dessus de la moyenne. Quand je vois certains centres étrangers arriver dans notre championnat de top 14, j'ai envie de dire, il y en a un bon dans les Landes, peut-être qu'il faut aller le regarder.
Allez, on continue à débriefer cette défaite du Biarritz Olympique du côté de Mont-de-Marsan. 100% rugby revient.
100% rugby sur France Bleu Pays Basque.
Pour revenir sur la défaite du Biarritz Olympique du côté de Mont-de-Marsan, 38-7. Un match sacrifié, on le disait, parce qu'il y a eu quand même une dizaine de rotations. T'avais 6 joueurs cadres qui étaient laissés au repos. Et derrière, effectivement, t'as ce calendrier. Parce qu'en même temps, t'es sur un bloc de 3 matchs. C'est sans doute normal de vouloir faire tourner, non, Bala? Quand même?
Oui, peut-être, sûrement. Je suis pas assez compétent et surtout j'ai pas les cartes qu'a le manager en main pour dire voilà, on va calculer le nombre de points et puis on va essayer de se la jouer comme ça. Moi, ce que je dis, c'est que quand le coup de sifflet final est retenti, que tu t'en vas au vestiaire, sous la douche, dans le bus, tu retiens quoi? Et tu peux pas parler du match là, tu fermes le voilà, tu t'en vas et puis terminé, tu vites à Grenoble. Attention, c'est pas une équipe de fond de tableau les Grenoblois.
Mais de manière très cartésienne, tu pouvais te dire aussi effectivement il y a Grenoble là, il y aura le déplacement à Agen qui peut-être à ce moment-là n'aura plus rien à jouer, à choisir entre deux déplacements, celui de Mont-2 et celui de Agen. Peut-être que c'est plus simple de cocher celui d'Agen.
Je sais pas. Honnêtement, on maîtrise pas aussi la vie du groupe avec les contrats, les joueurs qui vont rester, ceux qui sont peut-être pas là, qui ont décidé d'aller voir ailleurs. Il y a sûrement des choses qui se passent extra sportivement aussi dans ce club qui fait que le staff et les joueurs avaient sûrement ciblé d'un commun accord un autre match que celui-là. C'est dommage parce que part, voilà, mon côté landais aurait voulu qu'il y ait un très beau match en mémoire de ce monsieur. Les Montois l'ont respecté et lui ont rendu un très bel hommage de la façon dont j'ai dit tout à l'heure.
Et tu le disais, Thomas, pour le coup, toi qui as écouté la conf de presse après le match, toi qui as posé des questions effectivement, notamment à Simon Mannix, clairement, les Biarrois avaient déjà en tête cette réception de Grenoble et dans leurs mots, ça se sentait, quoi.
Ouais, toute la question c'est est-ce que c'est le bon choix, parce que tu as tombé face à une équipe de Grenoble qui est de retour dans ce top 6, qui a en plus 6 points de retard, donc c'est vraiment une équipe en forme. Elle a fait 5 victoires d'affilée en Pro D2, 5 victoires d'affilée, c'est assez énorme. Donc c'est toute la question, c'est est-ce que c'est le bon choix aujourd'hui pour le BO. Quand on regarde quand même ce bloc de 5 matchs, t'arrives sur ce troisième match, c'est toujours un peu compliqué d'enchaîner. Ils avaient fait un bon match du côté de Béziers, ils avaient pris le bonus offensif contre Aurillac, c'était peut-être le moment de faire tourner avant de. Mais après c'est les deux derniers matchs qui donneront raison ou non au staff. Si les deux derniers matchs tu l'emportes cette semaine contre Grenoble et que tu fais une grosse prestation du côté d'Armandie, où on le redit, Agen n'a plus grand chose à jouer dans ce championnat parce qu'ils sont à 8 points maintenant du top 6, ben ça peut être le bon coup. La question c'est dans quel état d'esprit seront les joueurs, quoi.
Enfin, il reste 5-6 matchs,
4
matchs, 5 fois 4, 20, hein. T'as aucune équipe qui est battue, et encore, hein. Tant que t'as 20 points à jouer et que t'es, alors les Agenais, tu me dis,
ils sont là, ils ont perdu contre Soyaux Angoulême à domicile, tu vois l'importance que ça a. Et quand t'es à 8 points de la 6ème place, ça semble quand même plus compliqué que pour un Grenoble,
oui,
ou pour un Mont-de-Marsan, ou même pour, je vais dire, Dax, hein, carrément.
Je suis d'accord avec toi. Toujours est-il que il y a des points qui sont en jeu, et tant que tu peux aller les chercher, c'est pas des mathématiques, le rugby est là, c'est, donc moi je pense pas que les Biarros, ça soit une bonne chose ce qui leur est arrivé au Stade Montois. J'espère me tromper, parce que bon, ils ont un match, on va dire, très compliqué ce week-end. Après, sûrement qu'ils ont les cartes en main si ils battent Grenoble ce week-end. Mais attention.
Et puis je regardais quand même les calendriers. Quand tu regardes, honnêtement, pour aucun des concurrents directs du Biarritz Olympique dans la course au maintien, ça va être facile. Il n'y en a pas un à qui tu te dis, bon, mais ça, c'est plus négociable ou quoi, ouais, c'est mort.
C'est ça.
Ou à la limite, même Montauban, tu vois, effectivement, ils sont à 4 points du BO ce soir. Tu regardes Montauban, bon, mais ils reçoivent Vannes. Il se déplace à Colomiers qui a plus grand chose à jouer, ou peut-être un dernier barreau d'honneur. T'as derrière la réception de Mont-de-Marsan, et tu finis avec un déplacement au Riac.
Oui, et puis que tu le veuilles ou non, cette descente là en national est vécue comme une petite mort, pour un club, c'est-à-dire que t'as
même si cette année t'as le barrage qui fait que t'as, on va dire, une dernière chance.
Oui,
ouais, mais Rouen est à 6 points aujourd'hui du BO, hein. C'était pas le cas il y a 4-5 journées en arrière.
Exactement.
Rouen, ils finissent comme des boulets de canon. Ils ont gagné contre Provence Rugby. Bon, c'était à domicile, mais quand même Provence Rugby, c'était le leader contre la Lanterne Rouge, ils ont quand même gagné d'un point contre
eux. Oui, oui.
Donc ils sont vraiment, en ce moment, quand tu regardes le nombre de points qu'avait Rouen à la fin de la phase aller et ceux qu'ils ont aujourd'hui, ils sont en train de finir mais très fort ce championnat. Et la question, c'est même pas la place de barragiste, quoi. C'est même cette 16e place qui est qu'à 6 points, on le rappelle, du BO quand même.
C'est un championnat marathon, la Pro D2. C'est un championnat très dur. Je vais faire un petit aparté avec des voisins rouges et blancs, les Dacois, qui s'en sortent avec un paquet d'avant très, très costaud. Ouais. Et qui leur permet de sortir une épingle du jeu. C'est un championnat particulier qui est sûrement moins plaisant à voir, mais attention à Biarritz. Personnellement, je les voyais beaucoup mieux exister au Stade Montois. J'espère qu'ils ont fait les bons choix.
Voilà pour le Biarritz Olympique qui reçoit donc Grenoble ce vendredi soir à Aguilera, 21h, affiche de la 27e journée de D2 à vivre sur France Bleu Pays Basque, avec toi Thomas et Grégoire Lascubé, 100% rugby, qui continue d'évoquer le Biarritz Olympique dans quelques secondes avec les infos du jour sur notamment le processus de vente.
100% rugby, les infos du jour.
Les infos du jour, vous réagissez pas en studio, c'est comme vous le sentez. Eric Balader, Thomas Vinclair. On était à Biarritz juste avant, on y reste avec le processus de vente qui suit son cours, puisque aujourd'hui, la société Beautiful de Sean Hegarty va devenir officiellement propriétaire du club. Vote à l'unanimité du directoire et du conseil de surveillance du club qui s'est déroulé ce matin. Au conseil de surveillance, on le rappelle, il y a Laurent Menduri, Serge Lagaronne, Jacques Etchalus, Nicolas Brusque et Stéphane Carrella. Donc vote à l'unanimité. l'unanimité de ces personnes-là qui ont donc donné pouvoir du côté de la société Beautiful qui va récupérer les parts qui étaient détenues jusqu'à présent par Louis-Vincent Gave. On parle de un peu plus de 77% du club, du Biarritz Olympique, 116 millions d'actions que Gave avait, Louis-Vincent Gave, depuis sa prise de fonction et depuis son arrivée au club en 2018. En revanche, pour l'instant, Jean-Baptiste Aligier reste président du directoire jusqu'à l'Assemblée Générale Extraordinaire qui devrait se tenir à la fin du mois d'avril, peut-être au début du mois de mai. Tout dépendra de quand les convocations vont partir. Est-ce que c'est demain mardi? Est-ce que ce sera mercredi? Et donc, à partir de là, on désignera un nouveau directoire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a pas mal de zones d'ombre autour de ce rachat du Biarritz Olympique, parce que la cession a été faite autour de 1 euro symbolique, lâché par Jean-Baptiste Aligier et Louis-Vincent Gave. Maintenant, quelle est la surface financière du trio composé de Sean Hegarty, de Philippe Van der Merwe et de Marc Bagé? Pour l'instant, pas grand monde le sait. À chaque fois que des questions ont été posées, ça a notamment été le cas ce matin lors du conseil de surveillance, les nouveaux actionnaires, les nouveaux propriétaires du club ont refusé de donner des réponses aux personnes qui étaient présentes à la réunion. Donc, beaucoup de zones d'ombre, ça, c'est pas de nature à rassurer tout le monde pour la vente du Biarritz Olympique, mais pour l'instant, en tout cas, on va dire que jusqu'à la fin du mois, et notamment le passage du côté de la DNACG, le gendarme financier du rugby français qui aujourd'hui ne s'appelle plus comme ça, mais jusqu'au passage de la DNACG, on va dire qu'on est plutôt tranquille. Le problème, c'est qu'il va falloir passer à cette étape de la 2R, comme on l'appelle maintenant. Ça laisse beaucoup de zones d'ombre, mais donc voilà pour la vente du Biarritz Olympique. Voilà.
Écoute, espérons que ça soit le bon choix, comme j'avais essayé de poser comme question à Monsieur Aldiger la semaine dernière. Si tout le monde est d'accord et que, en effet, comme disait Monsieur Aldiger, il y a plein d'amis maintenant qui vont aider le Biarritz Olympique, mais tant mieux. Moi, j'espère que Sean, c'est un bon gars, c'est quelqu'un du coin, je pense qu'il sait ce qu'il fait, et espérons qu'il est derrière un pool de financiers qui l'aide à construire un beau club avec un beau projet sportif, et peut-être pas des gens d'Hong Kong, du coup, parce que... Ils seront peut-être sûrement d'ailleurs.
Allez, toujours au BO, fin de saison pour Joe Jonas, l'arrière biarrot et futur joueur du Stade Français, absent des terrains au minimum 2 mois, victime d'une rupture d'un ligament de la cheville il y a 10 jours lors de la victoire contre Aurillac 29-18. C'est ce qu'indiquait l'IRM, donc déjà blessé à cette même cheville, c'était l'an dernier, ce qui avait empêché qu'il termine la saison. Juste un mot quand même, Joe Jonas, c'est 64 matchs joués avec le BO, 13 en top 14, 13 essais. Quelle trace pour Joe Jonas, Thomas?
C'est un joueur qui a presque jamais déçu, si on peut dire, cette saison, malgré le fait qu'on savait depuis bien longtemps qu'il allait partir du côté du Stade Français. C'est dommage pour le joueur aussi, qui aurait mérité, à mon avis, de beaux adieux du côté d'Aguilera. Évidemment qu'il y a quelque chose qui sera fait autour de ce départ, mais bon, finir sur la pelouse, c'est toujours un peu différent. Et après, par contre, d'un point de vue sportif, c'est quand même assez embêtant. Et là, je pense plutôt d'un point de vue du jeu au pied, parce que numériquement, il est remplacé par Gervais Cordin, qui fait très bien le taf, dans la relance, dans les efforts défensifs, etc. Mais dans le pied, dans cette occupation au pied, c'est pas la même chose que Joe Jonas, même si Joe Jonas, c'est pas son point fort, mais quand même, depuis l'arrivée de Simon Mannix, on sentait qu'il avait retrouvé de l'assurance dans ce fameux jeu au pied. Et aujourd'hui, il te reste un peu que Billy Searle, là, dans ton 15 de départ, en tout cas, qui a cette longueur au pied. Donc voilà, c'est ça. D'un point de vue sportif, ça peut être assez problématique, mais Gervais Cordin, à mon avis, fera très bien le taf jusqu'à la fin de la saison.
Et puis la troisième info, le 15 de France féminin qui surclasse l'Italie et qui poursuit son sans faute dans le tournoi Destination après avoir dominé l'Irlande 38-17 et l'Écosse 15-5. Les Bleus qui enchaînent donc un troisième succès grâce à 6 essais. Les Bleus qui se déplaceront au Pays de Galles dans une semaine, enfin à la fin de cette semaine-là, avant la probable finale tant attendue face aux Red Roses. L'Angleterre, ce sera à Bordeaux dans 15 jours, le 27 avril. Voilà pour les infos du jour. On part dans quelques secondes du côté des Cap-Bretons retrouver un joueur de l'aviron bayonnais et du 15 de France, non, mais du 7 de France en l'occurrence.
France Bleu Pays Basque, 100% rugby, avec Stéphane Garcia.
Et on le disait donc, notre invité ce soir, joueur de l'aviron bayonnais depuis Cap-Breton, où la première journée de stage s'est terminée. Bonsoir Esteban.
Bonsoir.
Et merci d'être avec nous dans 100% rugby. On est avec également Eric Balader.
Bonsoir Esteban.
Bonsoir.
Bon, ce stage, cette première journée en tout cas de stage du côté du Français, ça s'est passé comment?
Écoutez, on a eu un coup de soleil après la pluie, donc tout s'est bien passé pour l'entraînement. Et donc voilà, on a revu quelques têtes de retour, dont j'en fais partie avec Thomas Carroll, Antoine Dupont et Paul Lerettre. Donc tout s'est bien passé.
Ouais, avant d'évoquer Antoine Dupont, on est obligé d'y passer, mais justement, vous évoquez votre retour fin février. Vous aviez la blessure à la cuisse, impossible du coup de voyager pour la Californie. Comment vous avez passé ces dernières semaines et puis ce retour, comment on le vit du côté du groupe?
J'ai eu un peu de mal au début parce que bon, je me suis déchiré sur le dernier match, mais voilà, les copains ont performé sur le tournoi d'après. Et écoutez, après j'ai fait une bonne rééducation en première partie à l'aviron bâillonné, puis à l'INSEP où j'ai été encadré par les meilleurs au niveau de l'athlétisme pour améliorer ma technique de course. Donc voilà, je suis en forme et je suis content de retrouver le groupe.
Mine de rien, on y reviendra sur l'INSEP, sur ce que ça a d'important au moment de préparer les Jeux, mais justement on est à 100 jours, enfin, on va être à 100 jours mercredi des Jeux Olympiques. Esteban, dans quel état d'esprit vous êtes?
Bah écoutez, 100 jours c'est très loin comme c'est très près, mais c'est un peu une phrase bateau, mais c'est le cas parce que voilà, on garde le sourire, on sait que ça arrive très vite, on sent quand même que la tension est montée dès le début de la saison parce que le niveau sur le circuit a nettement augmenté. Mais voilà, pour l'instant c'est step by step, on se concentre sur le prochain tournoi qui est Singapour parce que ne l'oublions pas, on doit performer pour avoir pas mal de points sur le classement pour prétendre à être dans les 8 premiers pour participer à la finale qui est Madrid. Et à Madrid, il faudra performer parce que c'est la finale. Et donc, si on gagne ce tournoi, on gagne le circuit. Donc, on sera numéro 1 mondial. Et c'est important d'envoyer des signaux forts avant la grande compétition qui est les Jeux Olympiques.
On parlait de signaux forts. Avant de prendre le temps d'évoquer votre parcours et justement votre ambition, vos ambitions sur l'équipe de France à 7, on est obligé d'évoquer ce monstre-là, ce phénomène-là, parce que on a vu depuis son passage, il y a eu Vancouver, la demi, Los Angeles, la victoire, Antoine Dupont que vous évoquiez et qui a retrouvé le groupe, il y a eu comme un déclic aussi pour l'équipe de France de rugby à 7 depuis son arrivée.
Les chiffres parlent pour lui, donc tant mieux. Mais écoutez, je sais pas si c'est vraiment un déclic. Après, l'équipe travaille vraiment bien depuis 2-3 ans. On monte vraiment en puissance, donc. Il est arrivé au bon moment, il est arrivé avec nous aussi au bon moment, aussi dans notre intérêt, dans le sien aussi, mais non, c'est sûr que ça nous fait du bien, une personne comme ça, et ça, parce que vraiment, il fait élever le standard de tous les autres joueurs malgré lui, donc tout le monde se donne à 200%, et ça, c'est important, au-delà du fait qu'il peut augmenter la visibilité de la discipline.
De fan à coéquipier en équipe de France, c'est un post que vous aviez fait sur les réseaux sociaux et qui a beaucoup tourné, mais mine de rien, j'imagine qu'à vivre, ça va être assez particulier.
Ouais, j'ai pris pas mal de pièces parce que le responsable de la com avait trouvé cette vieille photo. En plus, j'étais en junior à l'aviron bâillonné lorsqu'on avait vu la rencontre en 2020, je crois, de France-Angleterre. Et donc ouais, c'est sympa cette petite photo où j'étais fan un peu, et donc ouais, donc de jouer avec, c'est cool. Non, c'est cool, c'est, en plus de ça, c'est quelqu'un de très gentil, donc ça rend la chose encore plus belle. En plus, on avait fait une médaille sur ce tournoi, pour son premier tournoi. Donc, en tout cas, à vivre, je souhaite à tout le monde. C'est vraiment une sensation particulière et c'est cool à vivre.
Vas-y, peut-être.
Oui, non, mais, enfin, sur Antoine Dupont, déjà rassurer tout le monde qu'il est fait également aussi pour ce jeu. Hein, donc, voilà, les gens qui avaient encore des doutes sur sa capacité à transphaser le 15 au 7 et du 7 au 15, ben, hier, on a bien vu que même à 15, il est encore meilleur après avoir été passé un peu par le 7. Moi j'ai plutôt des questions, tu m'excuseras, mais sur le jeu en lui-même, donc si je peux, voilà,
on y revient juste après.
Ils zappent, quoi, tu vois, non. Si on commence à parler de rugby à 7,
t'inquiète, non, c'était prévu, mais effectivement il y avait l'entraînement en plus pour Esteban. Mais juste, on parle des jeux parce qu'on est bientôt à 100 jours. Comment on se mentalise ça, c'est-à-dire vous n'avez que 21 21 ans, Esteban, et il y a cet objectif-là qui, alors qu'on, dans un processus de carrière, on se dirait, bah, son objectif, c'est de jouer en pro, de jouer pour l'Aviron Bayonnais. Vous, à 21 ans, et depuis plusieurs mois, plusieurs années, vous vous êtes dit, tiens, je vais me lancer à fond dans cette aventure du 7 avec, comme bout, comme cerise sur le gâteau, les Jeux Olympiques à Paris.
Bah ouais, c'est vrai que l'objectif c'est quand même de jouer avec la première, mais là sur du court terme et moyen terme, voilà, c'est de faire ces Jeux Olympiques, mais pas que de les faire, les gagner aussi. Mais ouais, le 7, je l'ai connu en club au tout début, un peu par hasard, parce qu'il fallait aligner des personnes. C'est une discipline qui m'a vraiment plu et qui, quand j'ai eu la chance de faire mes premiers rassemblements avec l'équipe de France, j'ai vraiment découvert une autre discipline, un autre sport, des autres automatismes, une autre façon de réfléchir. Et ce qu'il faut que comprennent les gens, c'est que toutes les qualités qu'on peut développer en fait à 7, elles sont transposables à 15. Alors c'est plus facile quand on joue derrière, moi je joue devant, mais je suis quand même persuadé de ça. Donc voilà, mon objectif quand même, c'est de faire les Jeux Olympiques. Donc ça serait vraiment un rêve, et ça serait aussi un tremplin, je pense, pour ma carrière à 15. Je pense que c'est que du plus. Les gens disent oui, mais du coup à 15, mais je pense que voilà, ça peut aussi me faire exploser à 15, et puis sur du long terme, c'est le but, être le meilleur joueur possible à 15, mais là pour le coup c'est les Jeux Olympiques, et voilà, je suis focus 7 jusqu'à la fin de l'année. Je ferai plus de 15 depuis le janvier 2024. Je fais que du 7, et pour l'instant cette discipline elle me plaît.
Voilà.
Alors justement, moi je vais te parler un petit peu de toi et de ta position sur le terrain. T'es un joueur de couloir, hein, aérien, qui va lutter dans les airs sur les coups d'envoi. Je trouve que Jérôme Darré a fait un groupe, on va dire, qui est quand même assez homogène sur la vitesse, les qualités de duelliste que vous avez tous. Moi j'ai deux questions. La première, t'es le seul avant du groupe, je crois. Alors, il y a Logel toujours, ou je sais plus, j'ai pas vu exactement comment vous étiez la réunion.
Oui, il est toujours dans le groupe. Oui.
Donc vous êtes deux. Il y a plus que deux avant dans le groupe. Tout le reste, c'est des centres, des ailiers ou des joueurs de milieu de terrain à 15, eh, on va dire. Donc comment, est-ce que t'as une préparation particulière, ou est-ce que t'es destiné essentiellement au poste de 1, hein, je pense, ou d'autres postes, 7 peut-être. Et est-ce que le deuxième point, est-ce que justement la permutation des postes, qui est quand même assez importante dans ce groupe, vous permet de voir toutes les difficultés à attaquer et à défendre dans une équipe de rugby à 7?
Alors, pour répondre à ta première question, oui, effectivement, on est les à 15. Il a joué aussi troisième ligne à 15. Et ça serait te mentir de te dire qu'on se prépare différemment. On suit vraiment les entraînements. C'est tout. Après, voilà, c'est bien sûr qu'on est plus dans des rôles de couloir. Ouais, exactement. Exactement. Mais bon, après. Voilà, on peut plus dire lui jouer troisième ligne à 15. Voilà, c'est maintenant je suis pilier à 7. Après, je peux jouer aussi pilier, talonneur. Enfin, je peux faire 1, 2, 3. Je peux aussi jouer 6, donc qui est centre. Okay. Voilà. Après, moi, je peux jouer tous les postes.
Ouais, c'est
moi, mais c'est vrai que le peut-être pas le rôle de 4 et peut-être un peu moins 5, mais le rôle de 7 aussi sur le circuit. Pour être honnête, ça pédale vraiment. Sur le circuit mondial, les 7, c'est pour vous donner des idées, c'est Perry Baker, Carly Nice, ça pédale vraiment à plus de 38 km/h, donc je les ai pas encore atteints, ces 38 km/h, j'espère un jour, mais pour l'instant non.
Je rigole, Esteban, parce que là, si tu veux, il y a que toi et moi qui comprenons, hein.
Il y en a certains qui doivent noter le loto, là.
Il me tarde début août que tout le monde ne comprenne le rugby à 7, dont certains consultants, quand même, de France.
Double kin, carton plein. Ne démarquez pas, mais justement, on reste avec Esteban Capella. Juste le temps de marquer une courte pause, et on revient dans 100% rugby.
France Bleu Pays Basque, 100% rugby.
De retour avec Esteban Capilla, le joueur de l'équipe de France de rugby à 7 et de l'aviron bayonnais. On parlait de ce groupe du 7 de France, justement. Balin, t'as peut-être une question.
Ouais, j'ai une petite question, Esteban. Il y a de plus en plus de joueurs issus des îles, et la Martinique, la Réunion, qui amènent un peu de fraîcheur dans aussi, je pense, tout ce qui est autour d'un tournoi. Est-ce que ça se ressent dans votre jeu? Moi, en tout cas, sur mon canapé, je trouve qu'il y a beaucoup de fraîcheur, de joueurs de duel, et qu'on n'avait pas forcément avant, où on essayait de trouver plutôt des zones. Là, j'ai l'impression que vous êtes dangereux sur tous les couloirs. Est-ce que c'est ce que vous bossez, ou pas du tout, c'est le hasard qui fait que c'est comme ça?
Non, on essaie vraiment de bosser pour vraiment créer de l'incertitude partout sur le terrain. On avait été un peu reproché de justement avoir un plan de jeu trop précis et de se faire attendre à des endroits du terrain où voilà, les autres équipes nous analysaient bien, donc c'était compliqué. Après, est-ce que te dire qu'il y a vraiment un lien entre ces joueurs des îles qui pratiquent vraiment eux un sport d'instinct et de duel constant? Mais c'est vraiment ce lien entre jouer son duel, créer de l'incertitude en permanence pour vraiment dominer l'attaque, et voilà, savoir faire jouer aussi le coéquipier, parce que tous les duels ne sont pas bons. Mais est-ce que du coup ils ont un impact sur le jeu? Peut-être. Est-ce que le jeu est différent aussi? Mais voilà, il faut vraiment créer de l'incertitude tout le temps. Il faut vraiment, c'est ce sport-là, il y a tellement d'espace, il y a tellement de faux trous. Il faut vraiment les choisir les bons, déclencher au bon moment. Donc voilà, donc le jeu un peu des Iliens qui est basé beaucoup sur du changement de rythme. Nous, on bosse beaucoup, beaucoup sur ce changement de rythme. On fait aussi des cours de danse, ce qui paraît un peu fou.
Ah bon, mais pourquoi ça?
On prend des cours de danse avec Laure Bontaz, qui est l'ancienne. On prend des là mercredi matin, nous avons cours de danse.
Ah ouais, voilà, justement, on fait quoi?
Eh ben on danse.
Non mais la question était mal formulée. C'était effectivement, qu'est-ce que ça doit permettre?
En fait, pour être honnête, ce qui est recherché, en fait, c'est créer une synergie ensemble, déclencher au même moment. On a beaucoup de lancements qui sont basés sur le porteur de balle qui déclenche, et tous les mecs autour déclenchent en même temps, pour que vraiment le défenseur qui est le dernier défenseur qui est en face de son mec et que le ballon est loin et qu'il ne regarde pas, et ben bouge aussi. C'est le fait de bouger simultanément, d'être coordonné. C'est voilà, donc ils ont créé un lien, ou ils ont trouvé un lien avec la danse. Et en tout cas, depuis qu'on fait des cours de danse, au début, on a eu un peu de mal. Faire danser des rugbyman, c'est un peu compliqué au début, mais au final, tout le monde joue le jeu maintenant. C'est hyper drôle, c'est un moment de plaisir. Donc voilà. Donc ça vraiment, va, oui, pour répondre à ta question.
Il n'y a pas trop de piliers, donc ça va. Tu peux, ça va. Non, c'est plus joli quand même.
Ouais, c'est
pour Grégoire Lascubé, ça, qui doit écouter.
Embrasse
à Grégoire. Un tutu, il doit être mignon.
On parlait effectivement du set, de vos débuts et de votre licence à 15 aujourd'hui. Quel projet pour vous? Parce qu'on va vous dire, effectivement, il y a Paris 2024. Et ensuite, est-ce que l'idée, c'est de revenir à 15? Est-ce qu'il y a la volonté ou le rêve, peut-être, de signer un contrat fédéral, justement, pour continuer sur les circuits du Seven?
Moi j'ai déjà signé un contrat fédéral avec la Fédé pour justement 2024. Je l'ai signé en 2021. Donc le contrat fédéral, je l'ai déjà. Mais non, si je suis honnête avec vous, moi après les Jeux Olympiques, et j'espère les faire, j'arrêterai le 7 après cette date, et je vais me concentrer sur le 15 à 100% à la suite de ces Jeux, vu qu'il me reste encore une année de contrat avec l'Aviron Bayonnais, qui en plus ça sera mon premier contrat pro. Donc voilà, il me restera encore une année de contrat avec l'Aviron et donc le rugby à 15, où je vais essayer justement de performer aussi à 15, parce que voilà, je joue depuis tout petit à 15, hein. Ça fait que 3-4 ans que je fais du 7, il ne faut pas l'oublier, parce que les gens pensent que je fais du 7 depuis que je suis né, mais j'ai toujours fait du 15, hein. C'est juste que voilà, depuis 3-4 ans, je me focus sur le 7 en vue de cet objectif qui est majeur quand même.
Mais on n'en fait pas avant, hein, Esteban, hein, on commence à 16-17 ans, hein, le rugby à 7, parce que c'est trop contraignant physiquement en école de rugby, donc c'est normal que tu fasses pas avant. À quel poste à 15 ? À quel poste à 15 ? Comment tu vois, tu penses qu'en troisième ligne sur un rugby professionnel qui va être un peu plus basé sur les chocs et gagner du terrain ou plutôt sur un poste de trois carrés là ?
Non, je joue et je jouerai troisième ligne et les chocs ça fait partie du truc et ça me va très bien aussi. C'est non, je jouerai troisième ligne et si le coach a besoin d'un joueur qui partirait peut-être au centre ou à l'aile à la rigueur, je pourrais dépanner parce que voilà, j'aime le rugby en général, j'aime pas qu'un poste, mais en tout cas mon ambition est de jouer en troisième ligne en top 14 l'année prochaine.
Bon, mais merci beaucoup, merci à Esteban d'avoir pris le temps depuis Cap Breton. On le rappelle, vous êtes en stage avec le groupe 7 de la France pour préparer notamment le tournoi de Singapour, effectivement, qui aura lieu du 3 au 5 mai. Merci beaucoup d'avoir pris le temps et d'être venu chez nous sur France Bleu Pays Basque et on se dit à très vite.
C'est avec plaisir. À très vite.
Bon courage et bonne chance. Ciao, Esteban.
100% rugby qui bascule dans quelques secondes sur l'Anglette Olympique.
Avec les amis de l'association Les Bascons du Cœur et la Peña Kimio, on vous attend pour un nouveau rendez-vous en musique, chansons et plein d'humour. Samedi 25 mai à la gare du Midi à Biarritz. Les Bascons du Cœur, c'est un grand élan de solidarité et une soirée spectacle au profit du service d'hématologie de l'hôpital de Bayonne. Pour la soirée du 25 mai, réservez dès maintenant votre place auprès de l'office de tourisme à Biarritz. Les Bascons du Cœur avec France Bleu Pays Basque.
C'est le moment ou jamais. Ne perdons pas de temps.
France Bleu Pays Basque, 100% rugby.
Et la dernière ligne droite, vous en avez l'habitude, on la passe sur les terrains de National avec l'Anglette Olympique qui décroche sa qualif pour les quarts de finale. Victoire 28-15 à Nîmes dans le Gard. Anthony Biscay est avec nous, entraîneur de la ORC. Salut Anto.
Bonsoir à tous.
Bien remis de ce périple, mine de rien, parce que ça a été un sacré périple, je crois, jusqu'à 4h du matin ce matin, au moment de rentrer.
Ouais, ce matin, quand le réveil a sonné, ça a été, ça a piqué un peu, mais bon, forcément, quand on voit le contenu du week-end, c'est quand même des bons lundis matin.
Et Dieu sait que sur le contenu, notamment, je pense à la première période contre une solide équipe de Nîmes, vous avez fait un sacré travail.
Ouais, le risque c'était ça, c'était que finalement on soit pris un peu par l'émotion et qu'on oublie qu'il y avait un match à jouer. Et ce qui est top, c'est que malgré voilà, des jeunes joueurs sur le terrain, ils ont fait preuve de beaucoup de maturité et on a joué le match comme on voulait le faire d'ailleurs sur cette première mi-temps. Et donc voilà, c'est eux qui ont pris le match par le bon bout et ça nous a permis en effet de tourner à la mi-temps avec à 15-3 il me semble.
Il y a notamment effectivement ces ballons portés devant, vous êtes enfin vraiment un ballon porté et mêlé fermé, ça a permis de lancer idéalement ce barrage.
Oui, mais là aussi c'est une question de confiance. Voilà.
Oui, dans la lignée de ce que vous avez produit sur les derniers mois. Hein.
Ouais, c'est des secteurs où voilà, quand t'es en confiance, eh bien, voilà, tu regardes moins l'adversaire, tu regardes moins les kilos qui est en face, et puis souvent voilà, c'est une question de cohésion d'équipe et d'état d'esprit et sur ce secteur-là, c'est vrai que les gars, ça fait quelques mois maintenant qu'ils ont pris confiance et c'est des secteurs où on arrive à aller chercher des pénalités ou même marquer des essais, donc en effet, ouais, ça donne de la confiance à toute l'équipe derrière.
Et puis juste un mot sur une figure, même Pascal Guéder qui vous a rejoint effectivement de Saint-Palais en début d'année. À quel point il est arrivé, à quel point il a apporté à ce groupe, à vous, le staff aussi?
Ouais, alors il y a deux choses. L'année dernière, Yvan Abadi me donnait également un coup de main, sauf que parce que j'avais pas pris conscience que la mêlée était, il fallait autant la travailler, je faisais pas venir autant Yvan, et c'est vrai que Pascal cette année a supplé Yvan et puis il m'a bien fait comprendre par son amour de la mêlée qu'il fallait la travailler et en effet il est avec nous toute la semaine, Pascal fait vraiment partie du staff et c'est vrai que Pascal, oui, je dis, il a transformé l'équipe. Je veux dire, c'est le jour et la nuit avec ce qu'on a vécu depuis plusieurs années en Anglette, parce que souvent c'était, on en rigolait jaune. On disait voilà que la mêlée c'était soit une faiblesse au club et c'est évident qu'aujourd'hui Pascal a transformé les joueurs, leur a donné beaucoup de confiance et aujourd'hui lorsqu'une mêlée arrive, je vais pas dire qu'on est content, mais on l'attaque non pas pour la subir, mais pour aller chercher quelque chose. Et c'est ça aussi qui, en première mi-temps, nous a permis de bien rentrer dans le match et de récolter des pénalités.
Est-ce que tout s'est bien passé sur ce voyage du côté de la ORC? Parce que ça a été, on se dit aussi que c'est le genre de voyage qui forme et qui solidifie un groupe.
Oui, c'était pour ça aussi que le tirage avec un adversaire qui était très loin d'Anglette, c'était pas forcément une mauvaise chose parce que ça a permis aux joueurs de passer beaucoup de bon temps ensemble. Ouais, ça a été un super week-end. On a vraiment profité de la journée de samedi et le risque dimanche matin quand je les entendais dans l'auberge de jeunesse écouter la musique à bloc à 9h du matin, c'était le risque de pas switcher et d'oublier que l'élément principal de ce week-end-là c'était le match à 15h et c'est là où ils ont fait preuve d'énormément de maturité, c'est qu'ils ont réussi de suite à rentrer dans l'événement et c'est ça qui a clôturé un beau week-end. Et vous savez qu'avec Seb, on disait voilà, c'est important que notre objectif aussi c'était que ce week-end marque les jeunes, parce qu'on sait très bien que des phases finales on n'en joue pas forcément tous les ans et je crois que ce week-end-là leur donnera de beaux souvenirs lorsqu'ils refermeront leur chapitre de joueurs de rugby.
Par contre, qu'est-ce qui s'est passé sur une aire d'autoroute?
Ouais, parce que tu vois,
parce que j'ai reçu un message entre temps, effectivement, ouais, pour me dire qu'apparemment il s'est passé un truc et un oubli peut-être.
Oui, ben ça fait partie, tu vois, de la beauté de ce week-end et du fait que, ben, je pense que les garçons s'en souviendront. Ouais, on avait pas trop le temps vu qu'on a un peu traîné à la réception, il fallait pas trop s'arrêter au retour et puis on a eu, voilà, les joueurs ont eu besoin de s'arrêter pour évacuer une partie de leur début de soirée et le chauffeur nous a tellement mis la pression qu'on est très vite reparti et on a oublié un joueur sur l'aire de repos qui a pris plus de temps pour aller évacuer le début de soirée donc on est parti sans lui et puis
au bout
de quelques centaines de mètres non parce que c'est un des plus grands de l'équipe donc justement on va le respecter mais c'est ça quand même qui est magique, c'est que c'est un des plus grands du groupe et bon, on a réussi quand même à ne pas le voir au moment de repartir et oui, pour l'anecdote, c'est que lorsqu'il s'est retrouvé seul sur l'aire de repos, une voiture de la gendarmerie est arrivée à ce moment-là pour faire l'essence, je crois, et donc il est parti les voir et c'est les gendarmes qui nous l'ont ramené un peu plus, voilà, quelques kilomètres plus loin sur une aire de repos. Donc voilà, cette anecdote fera partie aussi de la, je trouve, voilà, de la beauté de ce week-end et ça fera un souvenir en plus pour les joueurs et pour le groupe en général parce qu'en effet, ça, on en a beaucoup rigolé.
Rennes, rapidement, très rapidement, mais vous y pensez déjà ou est-ce qu'on aura le temps de s'y projeter dans la semaine ou la semaine suivante?
Ouais, hier soir on n'y a pas pensé, mais c'est vrai que là, petit à petit, voilà, on va y penser. C'est une équipe qu'on a déjà affrontée deux fois cette année. On a eu la chance de les battre, mais on a pris aussi une belle déroutée là-bas. Donc, on connaît la qualité de l'adversaire, mais aujourd'hui, en effet, il faut qu'on croque ces derniers moments. Enfin voilà, ces dernières semaines qui nous restent à vivre ensemble. Donc, on va se projeter sur Rennes, commencer à projeter sur Nîmes, en essayant de donner le maximum, et puis on comptera les points à la fin.
Merci Anto d'avoir été avec nous dans 100% Rugby. On continuera évidemment sur les aventures de la ORC. Bonne soirée à toi.
Merci à vous, bonne soirée.
Merci Bala.
Bonsoir. Merci.
100% rugby, vous retrouvez sur les applications ici ou Radio France et notamment l'interview d'Esteban Capila, notre invité ce soir, le joueur de l'Aviron Bayonnais et de l'équipe de France de rugby à 7. À demain avec Yann Blanchard et David Talek.